Bonsoir. Plus de 40 jours depuis l'ouverture officielle de la session de mars, l'Assemblée nationale et le Sénat ont organisé moins de 5 plénières focalisées pour la plupart sur la prorogation de l'état de siège plutôt que sur les matières prévues dans le calendrier de la session. À en croire le président de la Chambre basse du Parlement, cette léthargie est due au manque des frais de fonctionnement. L'Assemblée nationale a connu une réduction de 30% de son budget conformément aux instructions du président de la République. Renseigne nos sources au ministère des Finances. Comment analyser cette situation? Nous en parlons aujourd'hui avec Marcel Zouma. Il est député national élu de Bondo dans la province du Bas-Ouélé. Il est membre du regroupement politique AA Barcé, membre de l'Union Sacrée. Monsieur Zouma, Marcel, bonsoir. Marcel Zouma, bonsoir. Alors, on a un petit souci avec votre ligne téléphonique.
Bonjour, madame.
Ah, voilà, ça s'est amélioré. Avec moi dans ce studio, Emedi Amouri, député national élu de la circonscription électorale de Kabambaré dans la province du Maniema. Il est rapporteur du groupe parlementaire de l'opposition Ensemble à l'Assemblée nationale. Emedi Amouri, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Il va nous rejoindre dans un tout petit moment, Michel Bissa, professeur à l'Université de Kinshasa, secrétaire scientifique de l'Observatoire de la gouvernance, un laboratoire de recherche en sciences sociales. Comme je l'ai dit, il n'est pas encore en ligne. Il va nous rejoindre dans un tout petit moment. Mais vous, auditeurs et internautes de Radio Kapi, vous êtes déjà très très nombreux à nous suivre. Chavim Boukou, depuis Kinshasa, Sanambala, vous êtes à Kolwezi dans la province du Lualaba. Blaise Amani, vous êtes à Arou, en Ituri. Vous êtes très très nombreux à envoyer déjà vos réactions et vos messages par rapport au thème de ce soir. À Bounia, dans la province de l'Ituri, vous nous suivez sur la 104.9 et si vous êtes en dehors de la RDC, merci de nous rejoindre sur www.radiokapi.net, sur DSTV canal 867. Vous pouvez également suivre cette émission en direct sur la page Facebook, la chaîne YouTube et le compte X de Radio Kapi. Bienvenue à tous dans votre magazine.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions à tech@radiokapi.net.
Plus de 40 jours après le coup d'envoi de la session de mars, l'activité parlementaire au sein de l'Assemblée nationale et du Sénat semble ralentie. Moins de 5 séances plénières ont été tenues, avec une prédominance des débats autour de la prolongation de l'état de siège, reléguant au second plan les dossiers inscrits à l'agenda de la session. Le président de l'Assemblée nationale attribue cette inertie à un manque des ressources financières pour le fonctionnement. Des sources au ministère des Finances indiquent d'ailleurs que l'Assemblée nationale a vu son budget diminuer de 30% conformément aux directives présidentielles. Michel Kifinda pour les détails.
Alors que l'article 144 de la Constitution stipule que l'Assemblée nationale et le Sénat se réunissent de plein droit pendant l'état d'urgence des sièges et des guerres, depuis la chute de Bukavu et Goma, le Parlement ne reçoit plus suffisamment les moyens de sa politique, s'indigne un fonctionnaire à la Chambre basse. Préoccupation partagée par le président de l'Assemblée nationale lors de la dernière plénière, Vital Kamere.
Nous avons fait beaucoup de jours sans plénière. Vous savez très bien pourquoi. Les raisons sont claires, nous sommes fatigués de continuer à nous débrouiller avec le peu de moyens qui nous reviennent à nous comme individus pour acheter les papiers pour l'Assemblée nationale. Ça risque d'être une habitude alors que chaque institution doit avoir des frais de fonctionnement. L'Assemblée nationale ne doit pas être considérée comme une petite institution. Il faut qu'on fonctionne dans de bonnes conditions. Nous avons fait beaucoup d'acrobaties pour avoir la plénière d'aujourd'hui. Mais ça, en tant qu'homme d'État, nous l'avons suffisamment.
Conformément au budget 2025, l'Assemblée nationale a connu une réduction de son budget de fonctionnement à 14%, alors que la présidence de la République connaît plutôt une augmentation de ses dépenses de fonctionnement de plus de 40% par rapport à 2024. D'après nos sources au ministère des Finances, l'Assemblée nationale n'a pas un problème avec sa dotation. Elle a été réduite à 30% sur instruction du président de la République.
Merci Michel Kifinda pour tous ces détails. Marcel Zuma, je rappelle que vous êtes député national élu de Bondo dans la province du Bas-Zouélé. Vous êtes membre du regroupement politique AABARCE. C'est un regroupement qui est membre de l'Union sacrée. Comment vous, de la majorité présidentielle, vous percevez cette léthargie ou ce ralentissement de l'activité parlementaire? Plus de 40 jours après l'ouverture de la session de mars.
Merci beaucoup, madame. Je ne sais pas si vous me suivez.
On vous suit très bien, monsieur Zuma.
Merci. Comme vous l'avez dit, ça fait plus de 40 jours depuis l'ouverture de la session de mars. Ce qui est vrai, l'Assemblée nationale a plusieurs organes. Comme vous pouvez le savoir, nous sommes à la 4e législature, la 3e république. Nous avons la plénière, nous avons le bureau, nous avons le groupe parlementaire, les commissions permanentes et les sous-commissions. À ce jour, les organes de l'Assemblée nationale sous la présidence de l'honorable Vital Kamerhe est en train de bien fonctionner en deux.
On vous a perdu, Marcel Zuma.
Il y a quelques difficultés liées notamment à son fonctionnement pour ce qui fait de fonctionnement. Allô?
Alors, on vous avait perdu tout à l'heure. Maintenant, ça va. Est-ce que vous nous suivez, monsieur Zuma?
Oui. Oui, je vous suis. Donc, je disais, l'Assemblée nationale fonctionne normalement, au travers des saisons, comme je venais de le rappeler, en dépit du fait que nous avons promu notre constitution, le Parlement dans l'ensemble, et particulièrement l'Assemblée nationale, fait face à ce problème-là, de son fonctionnement, lié au retard de paiement, de frais de fonctionnement, qui ne lui permet pas, en tout cas, de donner à temps réel, compte tenu de la situation qui traverse notre pays, c'est les rôles qu'elle devrait jouer en tant qu'institution ou l'une des institutions de la République. Mais c'est vrai, on peut considérer ça comme une léthargie, comme l'a dit, l'a fait savoir lors de l'avant-dernière plénière, parce qu'il y a eu plénière aujourd'hui, par son présent de l'honorable Vital Kamerhe. On ne peut pas dire qu'elle y a cette, y a pas, on ne peut pas qualifier ça d'une léthargie, mais c'est en fait un problème, justement, qu'on peut dire, du fonctionnement qui n'est pas véritablement régulier. Mais au moins, ces organes fonctionnent. Il y a, comme je l'ai dit, le groupe parlementaire travaille, les commissions permanentes travaillent, et voire sous-commission.
Alors, vous estimez que l'Assemblée nationale fonctionne normalement, en dépit du fait que vous n'avez pas des moyens pour faire fonctionner la chambre basse du Parlement. S'il y a ce problème qui se pose, ça veut dire que ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas. Moins de 5 plénières depuis le 15 mars 2025. Il y a un problème.
On ne peut pas dire qu'il y a forcément un problème, Madame Kelly. Je pense que je vous ai rappelé ici que l'Assemblée nationale n'a pas que comme pour organe la plénière. Par-delà la plénière, nous avons les groupes parlementaires, nous avons les commissions permanentes et les sous-commissions et son bureau. Et le gros de travail, d'ailleurs, c'est fait au niveau des commissions et des sous-commissions. Donc, il reviendra peut-être, vous avez été, parce que vous êtes toujours présente, la radio Kaké est toujours présente et accompagne toujours l'institution Assemblée nationale. Aujourd'hui, nous avions, entre autres, parmi les points à l'ordre du jour, l'audition des rapports des différentes commissions. Et là, j'ai fait allusion à la commission défense et sécurité, et celle de l'Écofin. ça veut dire que il n'y a pas que le plénière, parce que avant que le plénière ne tienne ou ne soit convoqué, il y a des travaux qui se font en amont, et ces travaux-là se font au niveau des commissions. Certes, et ce qui est plus visible, ce sont les plénières, parce qu'elles, elles sont publiques, mais les travaux, en réalité, se font dans des commissions. Et c'est, en tout cas, aujourd'hui, je peux vous rassurer que par-delà, les difficultés liées au retard du paiement des frais de fonctionnement et à la réduction même des trains de vie au niveau de l'institution Assemblée nationale, on peut ajouter à cela le Sénat. Mais nous, en tant que parlementaires, sous la présence de Vital Kamerhe, nous nous sacrifions pour accompagner le gouvernement et produire le meilleur de nous-mêmes pour que finalement notre pays passe à ces défis, surtout sécuritaires, qui traversent notre pays.
Alors, cette plénière focalisée pour la plupart sur la prorogation de l'état de siège plutôt que sur les matières prévues dans le calendrier de la session. Et ce calendrier prévoit 9 matières non législatives, 18 arriérées législatives, 7 nouvelles matières. C'est ce qui avait été annoncé le jour de l'adoption ou de l'ouverture de la session de mars. Alors, parmi les 9 matières non législatives, combien ont déjà été abordés ou discutés au sein de l'Assemblée nationale?
Beaucoup de matières, au moment où nous parlons, nous sommes en train de débattre à travers cette émission citoyenne, sont pendantes devant les différentes commissions. Au total, il y en a 10, plus le comité des stages. Ça voudrait dire que dans les semaines qui suivent, dès cette semaine, les semaines qui vont suivre, donc la matière sera beaucoup plus abondante et les plénières seront convoquées de manière récurrente. Donc il y a jusqu'ici pas péril en demain. Sommes en train de nous battre, comme je l'ai dit, sous la présence du président Vital Kamerhe et de son bureau, pour faire fonctionner et faire des aspects que tout ce que nous avons pu adopter au terme du calendrier lors de la dernière plénière, l'avant-dernière plénière, soit exécutée à un pourcentage beaucoup plus satisfaisant.
Aimée Diamouri, vous êtes député national, élu de la circonscription électorale de Kabambaré dans la province du Maniema. Vous êtes rapporteur du groupe parlementaire de l'opposition ensemble à l'Assemblée nationale. Quel est votre regard à vous sur cette période de faible activité parlementaire?
Oui, merci madame de la parole accordée. Dès l'entame, il y a un regret en tant que parlementaire. Ce qui régit la matière, c'est la constitution. Nous avons une constitution qu'on applique en République démocratique du Congo. Et la base de cette sollicitation de la population congolaise qui constitue le débat d'aujourd'hui, c'est l'article 68 de la Constitution. Et avec, en combinaison de l'article 100 de la même Constitution. Et quand vous lisez l'article 68, ça détermine les différentes institutions qui régissent la République démocratique du Congo. Et je ne pouvais pas m'atteler à ça ou prendre beaucoup de temps, parce que c'est connu parce que presque partout par toute la population congolaise. Mais toutefois, je pourrais tomber à l'article 100 de la Constitution qui détermine les modes de fonctionnement de l'Assemblée nationale et du Sénat, c'est-à-dire du Parlement, parce que le Parlement congolais est bicaméral. Et quand vous lisez cet article, et vous allez trouver les attributions du Parlement et carrément les attributions aussi de l'Assemblée nationale. Et ces attributions sont constitutionnelles. Et en plus, il y a encore un autre texte qui régit maintenant l'Assemblée nationale, c'est le règlement intérieur. Et c'est à l'article 23 que vous allez voir toutes les matières qui ont été déterminées ou toute la compétence de l'Assemblée nationale à statuer quant à ces. Et je vais ouvrir entre parenthèses pour parler de ce qui est de l'Assemblée nationale. Parce qu'en tant qu'élu et député national, et la manière que la plénière est convoquée, on peut dire les plénières sont convoquées, parce que tout commence par la conférence des présidents, et la conférence des présidents doit, et comme ça a commencé avec cette session, ça a commencé avec la réunion de conférence des présidents, et il y a un projet d'adoption, il y a un projet de qu'on doit adopter du calendrier par rapport à la session. Et dès que la réunion de la conférence du président termine, on convoque carrément la plénière. Et la plénière doit maintenant adopter le projet du calendrier d'une session.
Et tout ça a déjà été fait?
Oui, ça a été fait. Il y en a plusieurs matières, d'ailleurs, que vous venez d'étaler et que les collègues venaient aussi de les dire. Ça a été fait et les matières ont été adoptées. Mais au cours de la session, il peut arriver qu'il y a des matières urgentes, que le bureau a toujours l'obligation de convoquer encore la conférence des présidents et discuter par rapport à ça, adopter encore la plénière. Et d'ailleurs, aujourd'hui, à la plénière d'aujourd'hui, le président en a tenu informé qu'il y a d'autres matières qu'on est en train d'attendre de la part du gouvernement qui seront encore insérées dans les calendriers. Alors, dès que le calendrier est adopté, il faut maintenant qu'il y ait une applicabilité. Et en continuation, ou bien en continuant avec mon idée, je pourrais dire que jusqu'à aujourd'hui, nous sommes à 6 plénières. Depuis, ce n'est pas carrément 5, parce qu'il y avait une plénière aujourd'hui et il y avait certaines matières qui ont été adoptées. Mais ce qui est choquant, c'est que la population congolaise a constaté, c'est un constat, de voir aujourd'hui que non, il y a certaines matières qui se répètent. C'est constitutionnel, on ne peut pas y déroger. Mais il y a d'autres matières qui doivent être traitées. Et quand vous lisez, comme je venais de le dire, l'article 23, et dans notre règlement intérieur, qui détermine toutes les matières, toute la compétence de l'Assemblée nationale, et ces matières sont bien spécifiques. Et quand vous comptabilisez ces matières, ce sont des matières, ce sont des cas qui se passent en République démocratique du Congo, 10 jours au jour. Si nous prenons un exemple simple, de 2 cas par jour constituant la matière, et nous comptons au bout des doigts, si, comme nous avons 30 jours tout au long des mois, c'est-à-dire les plénières pouvaient être commencées chaque jour. Si nous prenons 2 cas, fois 30 jours, fois 38 matières que nous avons, 38 compétences de l'Assemblée nationale, je voulais parler dans les termes simples pour que les Congolais me comprennent, nous avons pratiquement 2880 cas que l'Assemblée nationale a la possibilité de traiter. D'où, et d'ailleurs, la session n'a que 90 jours. C'est-à-dire, la matière ne pouvait pas manquer. Mais vous allez comptabiliser, nous sommes qu'à 6 plénières dans 40 jours, d'où la population congolaise en a droit d'y réclamer. Et aujourd'hui, ça constitue un débat. Et si je dois dire, je ne suis pas ici comme porte-parole du bureau de l'Assemblée nationale. Je suis en tant que parlementaire. Parce que c'est venu du bureau. Le bureau qui a constaté que non, il y a un problème de fonctionnement. Et je voulais créer une petite différence entre, on n'est pas venu parler des émoluments d'un député national, nous sommes venus parler du fonctionnement de l'Assemblée nationale.
Voilà. Le président a parlé de ce manque des frais de fonctionnement.
Voilà.
Est-ce que c'est une raison pour qu'il y ait moins de plénières? Est-ce que c'est crédible?
Oui, réellement c'est une raison, parce que convoquer une plénière, ce n'est pas une mince affaire. Les travaux en commission peuvent se faire, mais on peut dire la dernière instance, c'est la plénière, d'où, même si il y a autant de réunions, autant de plénières qui peuvent être convoquées en commission, mais les rapports de commission finissent toujours à être exposés, être lus, les résolutions, les recommandations, être lues en plénière. Parce que les commissions peuvent se mettre autant de jours en plénière, comme les collègues Zuma venaient de le dire, à la population congolaise, mais au finish, ces recommandations partent où? Ces résolutions partent où? Les résolutions doivent maintenant être présentées en plénière. Et c'était ça, les cris d'alarme du président de l'Assemblée nationale.
Vous n'avez pas les papiers duplicateurs à l'Assemblée nationale?
Non. Les termes papiers, c'était juste un mot qu'on pourrait déguiser. Mais le président voulait parler des moyens pour faire fonctionner l'Assemblée nationale. Et dès que ces moyens-là ne sont pas mis à la disposition de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire qu'il y a
une... Concrètement, c'est quoi lorsque vous dites un moyen pour faire fonctionner l'Assemblée nationale? Vous avez besoin d'argent pour faire quoi?
Mais madame, ce n'est pas moi, c'est la Constitution congolaise. La Constitution, à l'article 100, détermine que non, il y a une autonomie financière dans le fonctionnement de l'Assemblée nationale. Donc, il faut qu'il y ait une dotation. Aussi longtemps que cette dotation n'arrive pas à l'Assemblée nationale, l'Assemblée nationale ne peut pas fonctionner. Or, vous savez que non, l'Assemblée nationale, c'est le centre. L'Assemblée nationale, c'est ça même, et on peut dire, la base de tout ce que nous avons comme constitution. Aussi longtemps que l'Assemblée nationale ne fonctionne pas, et toutes les institutions ne peuvent pas fonctionner non plus. Mais ce qui se vit maintenant actuellement en République démocratique...
Le gouvernement fonctionne.
Le gouvernement fonctionne totalement, mais pas l'Assemblée nationale. Et quand le gouvernement fonctionne sans l'Assemblée nationale, c'est une violation flagrante de la constitution. C'est-à-dire le gouvernement est là pour violer la constitution. Le gouvernement ne sait pas respecter la représentation nationale. Le gouvernement ne sait pas appliquer ce qu'on recommande par l'Assemblée nationale. Et c'est ça l'écrit. Mais quand je vois le collègue Zuma qui dit pleinement qu'il y a les commissions qui fonctionnent, les groupes parlementaires fonctionnent, mais comme je venais de le dire, les derniers juges c'est quoi? Les derniers juges c'est qui? Ou la dernière instance, c'est laquelle? La dernière instance, c'est les plénières, d'où les plénières doivent être convoquées. Ce n'est pas un problème de matière qui manque. Les matières sont là, mais il y a un problème de violation des textes par le gouvernement en place, par le régime en place, madame.
Professeur Michel Bissard, vous êtes en ligne?
Oui, je suis bien en ligne.
Alors, je rappelle que vous êtes professeur à l'Université de Kinshasa, secrétaire scientifique de l'Observatoire de la gouvernance, c'est un laboratoire des recherches en sciences sociales. Comment vous analysez cette situation au niveau du Parlement congolais depuis plus de 40 jours, depuis l'ouverture de la session de mars, à peine 6 plénaires hein, qui ont été organisés? Alors, le président de la Chambre basse du Parlement, par exemple, pour lui, cette léthargie est due au manque de près de fonctionnement.
Oui, merci beaucoup, madame le journaliste, pour la question. J'ai suivi les avis des deux honorables députés. J'en profite pour les saluer, saluer aussi les auditeurs de la Radio Capi. Nous pouvons voir cette question par rapport à trois grilles. La première grille d'analyse, c'est que d'abord, il s'observe une lutte au sein de l'Union sacrée de la nation, qui est un fait privé, mais qui impacte malheureusement sur le fonctionnement des institutions de l'État et touche même aux valeurs sacrées de la République. Parce que, madame, vous avez semblé de situer cette affaire dans la politique de la justice distributive, la réduction du temps de vie des institutions face à la guerre. Mais je peux vous dire que ça, ce n'est pas vrai parce que la situation de la marginalisation de l'institution Assemblée nationale peut être située avant même la résurgence de la guerre aujourd'hui, parce que je pense que c'est le profil du président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, perçu par les acteurs politiques de l'Union centrale, sa propre famille politique, comme étant un potentiel adversaire en 2028 qui semble inquiéter. Donc la volonté serait de ne pas donner suffisamment de moyens à un potentiel challenger en 2028. Et malheureusement, cette analyse politique semble handicaper sérieusement le fonctionnement des institutions. Mais maintenant, est-ce que jusque-là, on a suivi les déclarations du président Vital Kamerhe, mais vous savez qu'au niveau général de l'État, tous les politologues insistent sur le fait qu'il y a un problème d'injustice distributive des ressources nationales. Et il y a un problème réel qu'il faut réduire le temps de vie des institutions. Selon les données des couloirs, je n'ai pas les données exactes, mais en tout cas, à nous réfléchir.
Oups, on a perdu le prof Michel Bissat. La réalisation va essayer de le rappeler très très rapidement. Alors, en attendant que la réalisation puisse le rappeler. Marcel Zuma, juste une petite réaction par rapport à l'analyse faite par le prof Michel Bissat. Marcel Zuma, On l'a aussi perdu. Est-ce que vous êtes en ligne, Marcel Zuma? Marcel Zuma, vous êtes en ligne?
Oui, je suis en ligne. Maintenant, oui.
Alors, vous avez suivi l'analyse du professeur Michel Bissa. Juste un petit commentaire, hein, très rapidement, qui parle des luttes au sein de l'Union sacrée qui impactent négativement sur le fonctionnement des institutions.
Bon, je ne l'ai pas bien suivi parce qu'à un moment, la ligne n'était pas bonne. Je ne sais pas ce que le prof entend parler de la lutte entre Union sacrée, c'est pas quoi ce qu'il a dit exactement. Mais tout ce que moi je peux dire, c'est que voilà, jusqu'au stade actuel, l'institution Assemblée nationale ne dispose pas le moyen ou la dotation qui lui reviendrait de par les lois ou la loi des finances publiques. Ça, c'est une évidence. Je crois, après vos enquêtes, vous avez pu constater que l'Assemblée nationale a vu sa dotation à être amputée de plus ou moins plus de 30%. Ça, c'est une évidence. Même ce qui lui reste, l'Assemblée nationale ne la reçoit pas à temps voulu pour lui permettre de bien fonctionner. Là, je suis d'accord avec les collègues, mais pour le reste des débats internes à l'Union sacrée, je pense qu'il n'y a pas à marier tout ce qui est l'Union sacrée très privé avec l'institution Assemblée nationale.
Alors, on va vous garder en ligne. On me signale que le prof est là. Professeur Bissa, vous êtes en ligne?
Oui, bien sûr, je suis bien là.
Allez-y, professeur, on vous écoute.
Oui, je disais que nous avons constaté dès le début, depuis l'arrivée du président Vital Kamerhe, que les dotations de l'Assemblée nationale ne lui sont pas effectivement allouées, contrairement à l'époque de son prédécesseur Mbosso. Et que, par contre, pendant ce temps-là, nous avons vu que les allocations de l'institution président de la République, de l'institution gouvernement, de l'institution cour des tribunaux et même du Sénat qui est dans les mêmes palais, ont continué à recevoir leurs frais de fonctionnement. Ce qui montre qu'en réalité, la crainte perçue serait de ne pas positionner financièrement un potentiel challenger de 2028. Ça, c'est une analyse au niveau politologique. Mais maintenant, s'il faut entrer dans les problèmes réels de la justice distributive des ressources nationales, il y a un problème réel qu'il faut réduire le temps de vie des institutions politiques de manière générale. Je n'ai pas les données réelles de l'Assemblée actuelle et le président Kamerhe ne l'a pas dit, les gens essaient de parler de la réduction de 30%. Sur les frais de fonctionnement, mais on ne nous dit pas 30% de combien. Je me souviens à l'époque du président Alexis Thambwe Mwamba et du président Marc Kabund, le montant de 8 millions de dollars américains par mois était évoqué pour une institution. Ce qui veut dire que si vraiment, en réalité, une institution comme l'Assemblée nationale toucherait ou attendrait pour son fonctionnement 8 millions de dollars, il y a de quoi réduire parce que nous sommes quand même dans un pays où un médecin n'a pas de quoi avoir. Les universités ne touchent plus leurs frais de fonctionnement depuis bientôt 10 ans. Les hôpitaux manquent de frais de fonctionnement, mais toutes ces institutions continuent à fonctionner. C'est là que je me dis que le sens des sacrifices de nos représentants devrait être aussi convoqué parce que pour une session de 90 jours, avoir travaillé 5 plénières, en réalité je ne cite pas la première plénière ouverture, pour le travail réel il n'y a que 5 plénières et nous sommes déjà presque à la moitié de la durée de la session. Dans un pays normal, les élus du peuple auraient dû renoncer même à leur rémunération. Mais je n'appuie pas aussi totalement le fait que l'honorable a dit qu'il ne s'agit que des frais de fonctionnement. Parce que dans ces frais de fonctionnement se trouve une partie des rémunérations aussi bien du personnel politique que du personnel administratif de l'Assemblée. Je pense que ce qu'ils appellent les invisibles des députés proviennent justement de l'enveloppe de fonctionnement. Là, c'est un problème. Donc, en termes des analyses, il y a cette analyse à double niveau. D'abord, au niveau de la justice distributive au niveau national et au niveau des luttes internes politiciennes, parce que la situation ne touche pas l'ensemble des institutions politiques du pays, mais se limite au niveau de l'institution assemblée. Deuxièmement, l'honorable député national qui parle au niveau du pour le pouvoir, a semblé dire que le travail continue au niveau des commissions parlementaires et de la conférence des présidents. Mais ces deux instances institutionnelles de cette institution ne font qu'un travail de préparation de ce qui sera validé au niveau de la plénière. En d'autres termes, à partir du moment où les plénières n'ont pas lieu, tout le travail du personnel administratif, tout le travail du bureau d'études, tout le travail des 10 commissions et même le travail de la conférence des présidents deviennent caduques parce que ces travaux doivent avoir la validation finale au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau de la plénière. Mais vous avez cité ici le calendrier de cette session. En tout cas, on ne peut pas avoir une Assemblée nationale qui n'a que pour mission maintenant là d'aller valider ou proroger l'état de siège. Les urgences au niveau de l'état sont multiples.
Merci.
Et la guerre, la lutte pour une session qui est essentiellement politique, on aurait dû attendre des interpellations également, parce qu'ici, outre la législation, il y a les missions de contrôle parlementaire. Et ces missions de contrôle parlementaire comportent aussi une vision publicitaire et informative. C'est là-bas que le peuple, le petit peuple que nous sommes, nous attendons l'avis de nos élus par rapport à la guerre qui est imposée à la République aujourd'hui et qui fait que la patrie est aujourd'hui déchirée.
Merci, professeur.
En tout cas, je pense
Michel
que
Bissa,
la question...
On vous garde encore dans cette émission, professeur. Le temps juste de donner la parole aux auditeurs qui sont très nombreux à appeler sur les standards, qui veulent aussi donner leur point de vue sur le sujet de ce soir. On va se rendre à Beni, dans la province du Nord Kivu, pour écouter Fabrice Sambili.
Maître Fabrice Sambili, depuis la ville de Beni au Nord Kivu. La situation qui se passe à l'Assemblée nationale est révélatrice d'un malaise profond au sommet de l'État orchestré par une kakistocratie. Lorsqu'une institution aussi centrale comme l'Assemblée nationale, censée être l'autorité budgétaire par excellence, commence à se plaindre du manque de frais de fonctionnement suite au manque de ressources qu'elle alloue elle-même. Cela frise un état d'asphyxie financière avancée et symptomatique même d'une kakistocratie bien installée, parce qu'il est inacceptable que plus de 40 jours après l'ouverture de la session de mars, que les deux chambres du Parlement n'aient tenu que quelques plénières, sans jamais débattre de la crise sécuritaire à l'Est, encore moins de la crise politique persistante qui se vit actuellement au pays. L'Assemblée nationale, pourtant, elle dispose d'un pouvoir de sanctionner politiquement les ministres responsables de ces blocages budgétaires. Mais au lieu de jouer pleinement son rôle de contre-pouvoir, elle ne se contente que d'être une caisse de résonance de l'exécutif. On se pose la question de savoir où est passé le contrôle parlementaire. Pourquoi cette passivité alors face à des ministres qui dilapident l'argent du peuple sans jamais être interpellés au niveau du Parlement?
Alors, Marcel Zouma, vous avez suivi cet auditeur, cette interpellation de Fabrice Sambili depuis Beni au Nord Kivu. Qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, je pense que je respecte son point de vue, mais sauf que je ne le partage pas. Peut-être pour son information, moi qui suis député national de l'Union Sacrée, au cours de la session du mois de septembre, c'est moi qui étais l'initiateur de la motion de défiance contre un ministre membre de l'Union Sacrée, je cite le ministre des ITP, pour ce qui concerne son secteur. Ça veut dire qu'au sein de l'Union Sacrée, nous travaillons pour le bien-être de la population. C'est pas tant un ministre ou même du gouvernement et membre de l'Union Sacrée qui, finalement, on le laisse faire. Ça, il doit vraiment peut-être qu'il n'a pas bien suivi l'actualité au sein de l'Assemblée nationale depuis le début de cette législature.
On parle de la session de mars, plénière pour discuter ou pour débattre de la crise sécuritaire dans la partie est de la RDC et de la crise politique persistante selon cet auditeur.
Là encore, il vient peut-être de je comprends, il n'est pas bien informé parce qu'aujourd'hui, la plénière d'aujourd'hui a porté également sur l'audition des rapports, je l'ai souligné, dès l'entente même de ma prise de parole, que nous venions d'auditionner le rapport de la Commission Défense et Sécurité. C'était notamment en rapport avec la crise qui traverse notre pays actuellement. Bon, ce que moi je peux dire à ce stade, surtout au prof, c'est que, même par rapport à ce que les collègues l'ont dit, l'Assemblée nationale, effectivement, c'est l'autorité budgétaire. C'est-à-dire, si le président Vital Kamerhe aille à parler du haut du territoire, des difficultés auxquelles fait face à l'Assemblée nationale, l'Assemblée nationale, c'était en même temps l'ancien message, le sacrifice que nous consentons en tant que députés nationaux, parlementaires de cette législature, pour que finalement nous parvenions à trouver une solution. Ça veut dire cette réduction des trains de vie, le prof a raison de dire que pourquoi seulement l'Assemblée nationale, ou au mieux le Parlement, pourquoi pas le gouvernement, parce que ce qui est vrai, jusqu'ici, la réduction au niveau du gouvernement, personne ne sait, il n'y en a même pas, mais cette réduction ne frappe que l'institution parlement. Mais j'ai refuse plutôt de croire que, de quoi l'analyse du professeur, quand il dit que c'est peut-être parce qu'il y a la présence de Laurent Vital Kamerhe, qui serait un potentiel candidat. Alors, on lui prive moyen de sa politique pour que finalement, c'est là où je ne dis pas, parce que là, il veut faire croire l'opinion que si l'Assemblée nationale consente, c'est un sacrifice, et ça devait, c'est une mesure qui avait été prise, qui devait en principe frapper toutes les institutions du pays. Mais nous, en tant que représentation nationale, nous prêchons déjà par l'exemple. Et il revient à tout Congolais, y compris les profs, de faire à ce que, y compris nous qui sommes autorités budgétaires, que cette réduction des trains de vie et la présence de la République et les institutions du gouvernement, y compris les autres institutions, là, nous sommes d'accord avec ça. Mais dire c'est parce qu'il y a tel qui serait candidat président de la République, c'est là où je ne suis pas d'accord avec lui.
On va prendre ce deuxième auditeur qui nous appelle, qui est à Bukavu, au sud Kivu.
Appelle à partir de Bukavu dans la province du Sud Kivu. Les instructions du président de la République portant sur la réduction du train de vie des institutions pour soutenir les efforts de guerre étaient saluées par nous, peuple congolais. Cependant, le Parlement étant l'autorité budgétaire ne serait pas la première institution à se plaindre. Par ailleurs, je me demande si seul le président de la République peut instruire le gouvernement à prendre des mesures qui ont de l'impact sur le budget des institutions du pays sans consulter au préalable l'autorité budgétaire. Il s'observe que c'est le cas, car le gouvernement fonctionne normalement au détriment du Parlement et autres institutions du pays qui subissent les mesures du président de la République, alors qu'en fait et en droit, c'est le Sénat et l'Assemblée nationale qui devraient autoriser la restriction en pleine exécution budgétaire.
Monsieur Emedi Amouri.
Oui, madame. Je venais de suivre les interventions pertinentes du professeur, du collègue Zuma et de nos auditeurs et tous ceux qui nous suivent et d'autres peut-être qui n'auront pas le temps d'être écoutés sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Mais je voulais juste relever et d'autres aspects qui nous mettent. Et en tant que parlementaire, nous nous retrouvons en difficulté. Et parce que c'est bien de dire au peuple congolais de comprendre ce qui se passe. Et le président de l'Assemblée nationale, comme il l'en a dit, il avait des raisons. On ne peut pas faire fonctionner une grande institution comme l'Assemblée nationale sans pour autant qu'il y ait des frais de fonctionnement. Et si je dois toucher en passant, le professeur en a parlé par rapport à l'aspect que non, je n'ai pas touché ce qui touche, ce qui est des émoluments, c'est parce que moi je suis un élu du peuple, je ne suis pas venu à l'Assemblée nationale pour les émoluments, mais je veux qu'il y ait les moyens, les frais de fonctionnement pour que l'institution fonctionne.
Vous accepterez de ne pas être, de ne pas toucher votre salaire ou vos émoluments pour qu'on profite de la population? Vous êtes prêt à accepter cela?
Mais en tant qu'élu du peuple, il y a déjà un pourcentage dans ce que je touche qui part déjà comme effort de guerre. Ça, c'est déjà ma contribution et tous les députés en font. Ça a été adopté en plénière, c'est déjà passé, c'est-à-dire que non, il y a déjà l'applicabilité. Mais si je voulais insister, je voulais que le peuple congolais sache qu'il y a un problème au sein de l'Assemblée nationale. Et le président en a dit. Aujourd'hui, il y a un refus systématique des membres du gouvernement de se présenter à l'Assemblée nationale par rapport à l'aspect que le prof en a dit, pour voir que non, toutes les prérogatives qu'a l'Assemblée nationale. L'institution gouvernement fonctionne normalement, sans aucune plainte. Alors l'institution Assemblée nationale ne fonctionne pas. Et à tout moment, d'ailleurs, je voulais mettre le collègue Zuma en témoin. C'est lui qui a initié cette motion à la législature passée. Et quoi, à la session
passée.
Mais il s'est vu refuser lui-même. Le ministre ne s'est pas présenté. Le ministre a refusé de se présenter. Le ministre des ITPR, il ne s'est pas présenté. Et la grande institution comme gouvernement a menti à l'Assemblée nationale du déplacement du ministre. C'est aberrant. Ce sont des choses qui sont inacceptables.
Est-ce qu'on peut dire que l'Assemblée nationale est devenue comme une caisse de résonance de l'exécutif?
Oui, réellement. Je pourrais le confirmer. Oh, de cette tribune. Et c'est ça. Et quand un président d'une grande institution parvient à mettre à la disposition du peuple congolais cet aspect des choses, on ne peut pas négliger. Et le deuxième aspect, les bureaux de l'Assemblée nationale, par rapport à la motion du collègue Zuma, ou par rapport à d'autres, il y a des motions, il y a des questions écrites qu'on est en train d'adresser aux membres du gouvernement. Mais les membres du gouvernement ne répondent pas. C'est-à-dire que non, les membres du gouvernement, les régimes en place, violent les institutions, violent la constitution, violent tout ce qui a été établi par le peuple congolais. C'est-à-dire, et l'assiette, les soubassements même, qui constituent l'État, n'est pas respecté. C'est ça la défaillance de ce régime. C'est ça la défaillance de ce gouvernement. Le gouvernement ne pouvait plus exister.
Et donc c'est le gouvernement aujourd'hui qui contrôle l'Assemblée nationale, au lieu que ce soit l'inverse.
Non, le gouvernement ne contrôle pas l'Assemblée nationale, le gouvernement viole la Constitution. Le gouvernement ne contrôle pas. Et l'Assemblée nationale, il y a aussi un problème de léthargie de la part du bureau, comme je viens de le dire. Parce qu'il fallait nécessairement que ces ministres-là répondent. Parce qu'il y a des questions cruciales. Comme le peuple congolais est en train de le chercher, il y a des questions qui disent que non, l'Assemblée nationale doit débattre. Aussi longtemps que l'Assemblée nationale ne débat pas ces questions, il y aura toujours une difficulté et par rapport au mode ou bien à l'avancement des institutions en place. Alors j'en interpelle une fois de plus le peuple congolais. Et de cette vigilance-là, et à tout moment, parce que je sais que la radio Capi, elle est là et pour que le peuple écoute, pour que le peuple soit au parfum. Et c'est un aspect qui est tellement louable. Et le peuple doit comprendre qu'il y a une situation par rapport avec ce régime. Il y a une situation macabre par rapport avec ce gouvernement. Et aussi longtemps qu'il est là, il y aura toujours. À 40 jours, il n'y a que 6 plénières qui ont été convoquées. Et d'ici 50 jours, il y en aura peut-être moins encore, dont les matières ne seront pas traitées. Et dans peu de temps, nous serons dans l'obligation de retourner en vacances.
On va aller cette fois-ci à Chicapa pour écouter ce dernier auditeur.
C'est José Bungana depuis la ville de Chicapa. Je trouve que ces deux institutions, chambre haute et basse, représentent 26 provinces qui attendent le développement dans des différents secteurs. Se focaliser sur les frais de fonctionnement, c'est un argument qui ne tient pas debout. Et surtout que le pays fait face à une agression de l'ARC et M23 soutenue par le Rwanda. Par contre, ce sont eux qui ont un budget très lourd par rapport aux autres institutions. En termes termes des émoluments, session extraordinaire. Nous attendons la fixation des matières qui vont répondre aux attentes de la population, car vous êtes l'église au milieu du village.
Professeur Michel Bissa, vous l'avez dit, hein, surtout la dernière partie de la réaction de cet auditeur, vous l'avez évoqué dans votre première intervention.
Oui, l'auditeur doit comprendre qu'il y a un principe en sciences politiques qu'on appelle le principe de contrepoids. Le pouvoir arrête le pouvoir. On ne peut pas fonctionner dans un état normal et espérer un développement attendu lorsqu'on paralyse l'institution qui est l'autorité budgétaire, qui a pour mission justement de légiférer et aussi de contrôler les actions de ce développement. C'est comme ça qu'on peut avoir les détournements, les projets non bien réalisés et tout lorsque on n'a pas ce contrepoint. Deuxièmement, quand on parle de frais de fonctionnement, il faut noter qu'il ne s'agit pas seulement du fonctionnement du bureau ou des députés. Il y a là-dedans notamment une partie de la rémunération du personnel administratif de l'Assemblée nationale qui sont des pères de famille. Il y a le soin de santé du personnel administratif, il y a les frais des assistants parlementaires qui sont payés dans ces frais de fonctionnement, et donc il y a une mosaïque de frais qui sont là et ne pas les débloquer, c'est clouer des familles entières à la difficulté. Mais aussi un autre élément, pour rencontrer la préoccupation de l'auditeur, ce qui ne sait pas, c'est que par exemple, pendant cette session, nous avons assisté à la rupture de financement de l'USAID en RDC. Et donc, dans peu de temps, si on ne fait pas gaffe, les PVV, les personnes vivant avec le VIH-SIDA, vont commencer à payer les antirétroviraux. Ceux qui ont le tuberculé vont commencer à payer les frais de tuberculose. Les déplacés de guerre n'auront plus les frais parce que c'était les frais pris en charge par ces financements. On attendait de l'Assemblée nationale des débats sérieux sur ce qu'on appelle le financement innovant. Quel mécanisme l'État doit mettre en place par l'autorité budgétaire pour combler les lacunes par rapport à ces frais? Donc la question est beaucoup plus vaste que ça. Nous ne pouvons pas séparer ça de l'Union sacrée à partir du moment où cette plateforme a 92% de la composition des élus. Et c'est ça qui paralyse justement la capacité de sanction réelle. En tout cas, on aurait dû vouloir que le poids que l'IGF a eu, que la Cour des comptes, que la plénière de l'Assemblée nationale interpelle un certain nombre d'élus du peuple et les sanctionne. Ce n'est qu'un secret de polichinelle que c'est la machine politique de l'Union sacrée qui est derrière cette... mesure de déséquilibre, je l'ai dit, le gouvernement a tout ce qu'il faut pour son fonctionnement, l'institution présidente de la République en a, mes chers amis, ça touche aux valeurs sacrées de la République. Merci. On ne peut pas appauvrir une institution, autorité budgétaire, qui devrait avoir pour mission de sanctionner l'exécutif, et puis il y a un calme, un silence total. C'est la République qui en souffre, c'est l'image de la République et des valeurs sacrées de la République qui sont en jeu.
Merci, il est temps, Michel.
En tout cas, s'il y a des réductions à faire, que ces réductions puissent toucher toutes les institutions politiques du pays, mais aussi ça doit être orienté pour que des institutions comme les hôpitaux, les écoles, les universités aient les frais de fonctionnement. Voilà, madame, ce que je peux dire pour répondre à cet auditeur.
Solange Mwamba, qui nous suit depuis la page Facebook de Radio Capi, la population n'est au courant que lorsque ça ne marche pas, mais quand ils reçoivent plusieurs millions de dollars qu'ils utilisent à leur guise, rien n'est fuite. C'est de la distraction pour le moment. Seule la priorité reste, la seule priorité reste l'armée. Djunga Djulu Pascal, D'autres Congolais ont besoin de vivre, non seulement les députés. Bonheur Chimbombo, vous nous suivez depuis la province de Lomami. Merci beaucoup. Vous êtes très 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 nombreux à réagir au thème de ce soir. Malheureusement, on ne peut pas lire toutes les réactions tendant déjà vers la fin de l'émission. Marcel Zuma, une certaine opinion interprète cette situation comme un affaiblissement du pouvoir législatif. Votre réaction, ça sera aussi la conclusion.
Merci, madame. Je voudrais demander à l'opinion publique nationale, voire internationale, à faire confiance à la représentation nationale et l'Assemblée nationale sur la présidence du président Vital Kamerhe. Certes, du point de vue fonctionnement, il y a des bémols, ça, nous devons le reconnaître. Peut-être, on ne voulait pas parler de chiffres, on a parlé plus de pourcentages, mais je peux vous dire ici, bien que ce soit des dinosaures, c'est sur les 48 milliards de francs congolais que devraient recevoir l'Assemblée nationale dans le cadre de la dotation. L'Assemblée nationale ne reçoit que 28 milliards chaque mois, ça veut dire 20 milliards. L'Assemblée nationale est amputée de ça, c'est une évidence. Et puis, on en a parlé de manière, parce que les plénières de l'Assemblée nationale sont publiques et le rapport a été lu devant la représentation nationale, suivi en direct par la caisseur de l'Assemblée nationale. Alors, l'avant-dernière plénière, c'est une réalité. C'est parfois ce qui fait assez que par moment, les activités de l'Assemblée nationale, que nous aurions bien voulu qu'elles soient organisées à la grande satisfaction de l'ensemble du peuple congolais, ne soient pas véritablement au rendez-vous. Mais du moins, ce que l'opinion devrait savoir, et surtout les professeurs, c'est que le député national de cette législature, en tout cas, c'est un député national, ça je pense que mon collègue Amoury ne me contredira pas, c'est un député national qui consent des sacrifices pour l'intérêt supérieur de la nation face à cette agression barbare du Rwanda au travers le supplétique de Mbengue. Enfin, nous avons, en tant qu'autorité budgétaire, qui avons tous les leviers nécessaires pour contrôler le gouvernement.
Mais vous êtes devenu la caisse.
Vous êtes devenu. Non, nous ne sommes pas. L'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale n'est pas une caisse.
Allez-y.
Une caisse de résonance, madame. Voilà, je voudrais réciter tout de suite pour dire que l'Assemblée nationale n'est pas une caisse de résonance. Et l'opinion doit comprendre que l'Assemblée nationale, bien qu'elle est actuellement dominée par la majorité écrasante, derrière la vision du chef de l'État, non plus ne fait pas allégeance au gouvernement ou aux membres du gouvernement. Pour preuve, je vous ai évoqué ici que moi, même les collègues Amoury qui est là, il est de l'opposition, mais jusqu'ici il n'a pas encore pris l'initiative et allant dans le sens d'inquiéter un membre du gouvernement qui n'est pas de sa famille politique. Mais nous, en tant qu'Union sacrée, nous l'avons fait. Cela pour combien au sein de l'Union sacrée, il y a cette démocratie, il y a cette approche rigoureuse du contrôle parlementaire envers le gouvernement. Et je vous préviens déjà qu'il y aura encore d'autres actions. C'est pas quand on est de l'Union sacrée. L'Union sacrée n'est pas une blanchisserie.
Merci.
Moi encore, voilà.
Merci Marcel Zuma et Mehdi Amoury. Vous allez devoir conclure aussi. Malheureusement, Marcel Zuma n'a pas répondu à la question. Je l'ai dit, il y a une certaine opinion qui pense qu'on a affaibli le pouvoir législatif en RDC.
Merci beaucoup, madame. Avant que je puisse aborder...
Nous sommes à la fin de l'émission. Hein,
la question, j'irai vite. Et je voulais d'abord répondre à l'auditeur de Kananga,
de Chikapa.
Je voulais lui dire que la République fonctionne avec des institutions. Il n'y en a pas une institution la plus valeureuse qu'une autre. C'est la Constitution. C'est comme ça que nous, en tant que parlementaires et membres du groupe parlementaire Ensemble, le seul groupe parlementaire de l'opposition, nous sommes tentés de prôner et de défendre la Constitution, parce que on ne peut pas la bafouer, on ne peut pas la mettre au-delà de tout ce que nous sommes en train de vivre actuellement. Et je voulais vraiment l'amener qu'ils comprennent que non, tout ce qui se passe aujourd'hui est déjà accouché dans une constitution que nous sommes en train d'appliquer. Le deuxième aspect, je voulais que...
Affaiblissement, on n'a plus beaucoup de temps, Emile Diamouri, affaiblissement du pouvoir législatif.
Je pourrais dire que cet affaiblissement est constaté par le fait que ça a été même confirmé par le président lui-même de l'Assemblée nationale. Ce n'est pas venu de l'honorable Emile Diamouri. C'est venu du président de l'Assemblée nationale. Aussi longtemps qu'il n'y a pas les frais de fonctionnement, il sera pratiquement impossible qu'il y ait convocation de plénière.
Michel Bissat, professeur, en 30 secondes, hein, s'il vous plaît, votre conclusion.
Effectivement, madame, nous constatons qu'il y a affaiblissement des pouvoirs de l'Assemblée nationale, aussi bien sur le plan financier que sur le plan du pouvoir politique réel. Tout ce qu'on peut appeler comme contrôle, on pouvait voir son efficacité si ça aboutissait à des sanctions réelles. Il n'y a eu aucune motion de défiance, aucune motion de censure, aucune mesure quelconque. Donc, c'est-à-dire que par moment, on peut se retrouver avec des actions qui sont des actions de maquillage cosmétique politique. En tout cas, ce qui est vrai, que tout le monde revienne à l'ordre, que l'institution est... L'État, c'est une affaire formelle et c'est une institution. On doit revaloriser les valeurs sacrées de la République. Personne ne gagne en affaiblissant une institution de l'État.
Merci.
Surtout une institution qui devra assurer les contrepoints.
Merci, professeur Michel Bissat. Dialogue entre Congolais, c'est fini pour aujourd'hui. Guy Maté, Étienne Lissoumbou et Bertin Kassiama m'ont aidé à préparer ce magazine. La mise en onde était assurée par Jean-Claude Nsiala. Derrière les caméras, Jonathan Fanani, Clément Chimanga et Hervé Vauquia. Martha Sebouchangoué a supervisé ce programme, coordination et présentation. Kéline Kouté, restez branchés sur la fréquence de la paix.